Voilà, j'aimerais vous inviter à la prière avant de commencer cette prédication à la gloire de notre Seigneur. Nous te remercions encore, notre Dieu, pour ce temps où nous avons pu ensemble te louer et te célébrer. Oui, tu es notre Dieu, celui qui nous a donné une espérance, qui est notre espérance, qui nous assure la vie éternelle pour nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons pour les enfants qui sont là parmi nous et nous te demandons que tu disposes leur cœur à l'écoute de ta parole, que tu conduises la monitrice et nous te remettons aussi les tout-petits qui sont à la garderie. Merci de conduire ces instants, que nous puissions avoir une oreille mais aussi un cœur disposé pour entendre ta parole, mais pas seulement l'entendre, mais et la mettre en pratique. Donc, aide-nous jour après jour par ton esprit pour pouvoir le faire. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, nous avons vu le texte de Genèse, chapitre 14. Nous avons vu les 16 premiers versets. Et nous avons parlé du courage dont Abraham a fait preuve, puisqu'il n'a pas hésité de prendre avec lui quelques hommes, 318, pour aller combattre toute une coalition de rois qui avaient emmené captif son neveu et frère Lot. Et en allant combattre ses rois et ainsi mettre sa propre vie en danger, Abraham a montré l'amour qu'il avait pour son neveu. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve donc dans Genèse chapitre 14, donc nous allons lire la suite, les versets 17 à 24. Et le tout début de ce passage, il est dit que Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui. Donc Abraham a eu une pleine victoire face à ses ennemis. Le Seigneur l'a soutenu, l'a accompagné et lui a donné la victoire. La question qui sera posée est la suivante. Comment Abraham va-t-il gérer cette victoire? Vous savez, l'une des missions ou ce qu'on attend d'un entraîneur, par exemple de football ou de basket, de ce que vous voulez, c'est sa capacité à gérer les égos des joueurs, notamment après une victoire. Parce que quand on a gagné, on croit bien sûr qu'on est le meilleur. On l'a montré. Et quelqu'un a dit que c'est dans la victoire que les caractères individualistes ressortent le plus. Comment Abraham va-t-il gérer cette victoire? La victoire sur ses ennemis. Et c'est vrai qu'après une victoire à un grand championnat, la question est de savoir comment le sportif va-t-il donc gérer ce nouveau statut de champion, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Comment il va gérer cela? Après l'exploit, comment revenir sur terre et garder les pieds sur terre? Et c'est vrai qu'après leur victoire, plusieurs sportifs ou plusieurs équipes ont déchanté et ont eu de mauvais résultats par la suite parce qu'ils n'ont pas su gérer leur victoire. Et par exemple, lorsqu'ils jouent le mercredi contre une grande équipe et puis qu'ils gagnent, après jouer le week-end contre une petite équipe du championnat, c'est pas pareil. Et parfois, il y a la mauvaise surprise de perdre. Comment gérer la victoire? Il y a plusieurs exemples dans la Bible où on voit qu'après une victoire, ceux qui ont connu la joie de la victoire ont après connu une défaite. Nous connaissons l'histoire donc du peuple d'Israël qui est entré dans le pays promis, qui a pris Jéricho, et puis après il y avait Haï. Et puis les compagnons de Josué lui ont dit, mais alors c'est pas la peine de que nous y allons tous, 2-3 000 hommes ça va suffire, allons prendre possession d'Haï. Et puis là, l'armée était en déroute. Et nous voyons dans ce texte de Josué chapitre 7 qu'en fait, il y avait le péché dans le peuple. Achan avait pris des choses qui étaient dévouées par interdit. Mais il y avait aussi leur orgueil aussi. Mais c'était surtout le péché d'Achan qui a causé la défaite de ce peuple. Et donc une fois que cette chose a été réparée, ils sont allés voir Haï, aller combattre Haï, et ils ont eu la victoire. Après, ils devaient aller combattre donc d'autres villes à côté. Et puis, il y a eu les Gabaonites qui ont fait croire qu'ils habitaient très, 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 très loin, et puis, alors qu'ils n'habitaient qu'à 3 jours de marche. Et le peuple d'Israël, Josué et les anciens, ils ont contracté une alliance avec ces Gabaonites pour ne pas les combattre. Et là, ils se sont rendus compte que finalement, ils se sont laissés tromper par ces gens. Et donc, à cause de la ruse des Gabaonites, Josué et ses compagnons et le peuple n'a pas pu aller conquérir cette région. Et puis nous connaissons aussi l'exemple de David. On a lu des passages ce matin, mais David, lui, il avait connu beaucoup de victoires. Et puis, une fois, il a dit, bon, je vais rester tranquille. Et puis, il a laissé son armée aller se battre. Et un soir, il est là, il voit Bathsheba qui se baigne et il a eu la convoitise et il a commis l'adultère avec Bathsheba. Quelle défaite pour lui. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment gérer la victoire? Après la victoire, si on ne fait pas attention, on peut connaître la défaite. Mais qu'est-ce que la victoire pour nous? La victoire, vous savez, n'est pas toujours synonyme de la sortie d'une épreuve. La victoire n'est pas toujours synonyme d'une réponse favorable de Dieu à notre prière. Toujours pour prendre l'exemple des sportifs, une équipe peut avoir perdu un match tout en ayant la satisfaction d'avoir fait un bon match. La défaite a le goût de la victoire. Elle sait que grâce à ce match, bien que perdue, elle sera plus forte pour affronter les échéances à venir. Et pour le chrétien, la victoire est de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Et l'apôtre Paul il dit dans Romains, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et l'apôtre Paul, il l'avait, dans 2 Corinthiens, il est parlé de ça, quand il avait cette écharde Il dit qu'il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Est-ce que le Seigneur a répondu favorablement? Non. Mais est-ce que c'était une défaite? Parce que le Seigneur n'a pas dit, d'accord, je vais l'enlever, cette écharde. Non, pour lui, au fait, il a compris quelle était cette victoire. Et la victoire, c'est lorsque le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et l'apôtre Paul, au lieu de se morfondre et dire, ah, Dieu n'a pas enlevé cette écharde, il va dire, voilà, puisque le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, c'est ça sa victoire. Il a la grâce de Dieu et il dit donc qu'il peut se glorifier dans ses faiblesses, dans ses outrages pour Christ, il dit. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est là la victoire. La victoire de savoir que Christ est là, c'est Christ son espérance, c'est Christ sa victoire et il pourra continuer, même si cette écharde est là, il pourra continuer avec la force que le Seigneur va lui donner. Donc vous voyez que la victoire, c'est pas toujours ce qu'on pense. C'est pas toujours que parce que tout va bien, on était dans la difficulté et puis voilà, tout s'est arrangé. Donc on a non, c'est pas toujours ça. C'est la capacité de pouvoir tenir ferme même si l'épreuve est toujours là. Tenir ferme, continuer à compter sur le Seigneur, avoir toujours cette espérance que ce Dieu tout-puissant est capable de nous délivrer. Et quand on avance avec la foi, avec cette foi-là, le Seigneur nous rend plus que victorieux. La victoire pour nous, donc, sera notre capacité, frères et sœurs, à tenir ferme dans l'épreuve et de trouver en notre Seigneur la force pour tout surmonter. C'est ce que l'apôtre Paul il dit dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. La victoire peut être source d'encouragement pour nous inciter à la persévérance, mais peut être aussi un piège, car elle peut éveiller l'orgueil qui est en nous. Donc comment gérer nos victoires ? Nos réussites pour qu'elles ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul, après avoir rappelé plusieurs faits de l'Ancien Testament, il dit que ces choses sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout, il dit, prenne garde de tomber. Et les apôtres Pierre ou Jean, ils s'adressent notamment aux jeunes, jeunes dans l'âge, mais aussi jeunes dans la foi. Il dit, l'apôtre Jean dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Mais avant de lire notre texte de Genèse 14, on peut lire 1 Pierre. Un Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre 5, verset 5, à partir du verset 5. Il est dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Pierre, il parle donc du fait qu'il encourage à l'humilité, il encourage à tenir ferme, mais il dit aussi, attention, le diable, il est là, il rôde comme un lion rugissant. Après une victoire, donc sur le malin, le danger est de vouloir faire preuve d'orgueil et laisser le moi, notre ego, prendre le dessus. Et c'est là qu'Abraham est encore un exemple pour nous. Après sa victoire sur Kedor Laomer, Abraham montrera son humilité et sa reconnaissance à Dieu devant Melchisédek. Et il fera aussi preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges du diable face au roi de Sodome. Donc, et c'est ce que je vais vous montrer là. Il fait ce que Pierre a dit aux jeunes gens de faire. Faire preuve d'humilité, ne pas être orgueilleux, et faire preuve de vigilance, soyez sobre. Alors, ce que nous voyons ce matin, c'est que la confiance en Dieu pousse donc à l'humilité et à la reconnaissance, mais aussi à la vigilance. Donc, j'aimerais nous encourager à avoir foi en notre Seigneur pour continuer à être victorieux. Pour continuer à être victorieux. Et donc, lisons maintenant ce passage de Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » La confiance en Dieu pousse à l'humilité, à la reconnaissance, mais aussi à la vigilance. La victoire d'Abraham sur Kedor Laomer et sur les autres rois, c'est une victoire sur le plan physique, parce qu'il y avait une guerre entre ces gens, mais aussi une victoire spirituelle. Vous savez, le nom Kedor Laomer signifie serviteur de la déesse Lagamar. Et cette déesse, d'après ce qu'on peut trouver, était une divinité élamite, donc l'Iran, qui accueillait les morts pour les accompagner devant une autre divinité, paraît-il, du monde des morts, qui juge les âmes des défunts. Et donc Kedor Laomer, serviteur, son nom signifie serviteur de la déesse Lagama. Et parmi les, au début du chapitre 14, il était avec un autre qui s'appelle Arjok, qui est, le nom signifie serviteur du dieu de la lune. Donc ce combat que Abraham a mené contre ses rois, C'était non seulement une guerre, certes physique, mais aussi une guerre spirituelle. Il a livré combat contre ses rois. Il y avait cette lutte spirituelle entre Abraham, lui, le serviteur de l'Éternel, et Kedorlaomer, lui, le serviteur de la déesse, la Gamar et des autres. Et je pense que vous savez qu'en devenant chrétien, lorsqu'on met sa confiance en Jésus-Christ, on entre dans une lutte spirituelle. On entre dans un combat. Et l'apôtre Paul, il encourageait Timothée, il lui disait que Timothée, il dit de lutter, de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il disait qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, il prend cet exemple du chrétien, il dit, voilà, mais tu es un soldat, sois un bon soldat. Donc, en tant que chrétien, nous sommes des soldats. Nous devons être, et nous savons que nous sommes des soldats, soldats du roi des rois, et du seigneur des seigneurs. Et l'apôtre rappelle, donc cette vérité aussi aux Éphésiens, pour leur parler de la lutte spirituelle. On peut lire ce texte de Éphésiens chapitre 6. Notre frère disait qu'il avait un peu de temps, mais j'apprécie d'avoir un peu de temps. Merci. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc lui, l'apôtre Paul, il dit que en tant que chrétiens, nous sommes dans un combat, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Et donc, parfois, la personne qui est devant nous, cette personne physique qui nous dit des mauvaises choses, il faut savoir qu'il y a une force derrière elle qui la pousse à dire ces choses-là et qui nous attaque. Donc, Abraham, lui, il n'est pas allé au combat les mains vides, bien sûr. Parce qu'il dit, le texte nous dit qu'il arma ses 318 serviteurs pour aller combattre. Il a pris les armes, Abraham, pour aller combattre Kedorlaomer. En 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit qu'il utilisait les armes offensives et défensives de la justice. En 2 Corinthiens chapitre 10, il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et aux Romains, il leur dit, dans Romains chapitre 13, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Il dit « Se revêtir des armes de la justice. » Oui, nous sommes dans une lutte spirituelle. Et les armes que nous avons à utiliser, ces armes sont décrites, ces armes offensives ou défensives, c'est ce que nous avons vu dans ce texte d'Éphésiens chapitre 6. Abraham va sortir donc victorieux de cette lutte contre ses rois. Et après donc, la victoire, celui-ci donc va faire la connaissance de deux rois qui viennent à sa rencontre. Le roi de Sodome, qui s'appelle Béra, dans le chapitre 14, verset 2, il est parlé de lui. Donc le roi de Sodome, le nom signifie « fils du mal », Béra. Melchisédek va aussi venir à la rencontre d'Abraham. Lui, son nom qui signifie roi de justice, il est roi de Salem, roi de paix, ou c'est Jérusalem. Il était aussi, il est dit, sacrificateur du Dieu très haut. Comment Abraham va gérer sa victoire? Et là, il y a deux rois qui viennent à sa rencontre. L'un, le roi de Sodome, l'autre, Melchisédek, roi de justice. Comparons l'attitude de ces deux rois vis-à-vis d'Abraham. Melchisédek, dans les versets 18 à 20, on voit que il se soucie du bien-être physique d'Abraham. Et il lui fait apporter du pain et du vin pour le fortifier. Il bénit Abraham. Il lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il bénit Dieu de ce qu'il a donné la victoire à Abraham. Donc, Melchisédek, lui, il donne toute la gloire à Dieu et il cherche le bien d'Abraham. Et j'aimerais vraiment souligner aussi cela, mais c'est quelle joie aussi pour Abraham de découvrir qu'il y a un autre homme, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui sert le même Dieu que lui. Melchisédek servait le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Donc Abraham n'était pas seul. C'était pas le seul croyant. Et parfois, nous aussi, on pense qu'on est tout seul. Et puis, non, il y a d'autres. Et là, c'est merveilleux. Melchisédek était à la fois, donc, roi, mais aussi sacrificateur. Et on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, Melchisédek. Là, c'est la première fois. Mais une autre fois, dans le psaume chapitre 110, David parle de Melchisédek, et au verset 4, il dit, l'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Il dit, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, qui est ce sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek? Et dans le verset 1 du psaume 110, David, il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un psaume messianique. Il dit que l'Éternel dit à son Seigneur. Et il lui dit par la suite, tu es pour toujours sacrificateur à la manière de Melchisédek. Et plusieurs siècles après, le Seigneur Jésus-Christ va avoir une discussion avec les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 22, on peut le lire. Matthieu chapitre 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Et donc, là, le Seigneur les interroge pour dire, voilà, David, il a parlé de quelqu'un de ses descendants qu'il appelle son Seigneur. Et le Seigneur parle de lui-même. Lui, le descendant de David, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Donc David savait que l'un de ses descendants allait être ce Messie, celui qui allait venir et qui allait aussi par la suite donner sa vie. Et à la fin de son discours, dans Actes chapitre 2, Pierre aussi va citer ce passage du psaume 110 dans Actes chapitre 2 qu'on peut prendre ensemble. Je vais lire à partir du verset 29, Actes 2 verset 29. Et donc c'est la fin du discours de Pierre à la Pentecôte. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Vous voyez donc ce Melchisédek dont David parle dans le psaume 110. Il dit que son Seigneur, il sera sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Hébreux chapitre, dans plusieurs passages d'Hébreux, chapitre 5, chapitre 6, mais aussi chapitre 7, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, va reciter ces différents passages pour démontrer que Jésus-Christ est supérieur à Aaron, à tous les sacrificateurs, souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, et puisqu'il dit, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pour démontrer que Jésus est supérieur en tant que souverain sacrificateur, il est supérieur à Aaron et que ça vient même avant même Aaron, donc du temps d'Abraham avec Melchisédek. Donc c'est merveilleux. Donc Abraham fait la rencontre de Melchisédek. Melchisédek lui donne du pain, du vin, le bénit Dieu, et Abraham fait aussi donc la rencontre avec le roi de Sodome, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Donc là, vous voyez que c'est pas du tout la même attitude. Le roi de Sodome, lui, il cherche d'abord son propre intérêt. Il demande à Abraham de lui donner les personnes. Il cherche aussi à faire un genre de pacte avec Abraham dans le but de le dominer. C'est lui qui dit à Abraham ce qu'il faut faire. Il cherche, alors que c'est Abraham qui l'a délivré, et il cherche à prendre l'autorité sur Abraham. Donc, c'est deux attitudes complètement différentes. L'attitude de ce roi, donc le roi de Sodome, Béra, qui signifie « fils du mal », fait penser à celle de Satan, le diable. Parce que lui, les richesses ne l'intéressent pas. Lui, ce qu'il veut, c'est les personnes. Il veut garder avec lui les hommes, les femmes, pour les entraîner avec lui en enfer. Parce que Béra, le roi de Sodome, lui, c'est ça, donne-moi les personnes, comme ça, ils seront avec moi à Sodome. Et vous savez ce qui va se passer après à Sodome ? Hein ? Le feu va descendre du ciel et va détruire Sodome à cause de toute l'immoralité qu'il y avait dans ce pays. Et donc, le roi de Sodome, lui, il veut la perte des gens. Tout comme le diable. Il veut la perte des hommes et des femmes. Les richesses, il n'en a rien à faire des richesses. Même il a dit au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a tenté le Seigneur, il l'a transporté sur la montagne et lui a montré les royaumes du monde et leur gloire. Il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout ça. Donc lui, les richesses, il n'en a pas besoin. Tout est à lui, d'après ce qu'il pense. Mais lui, il veut les personnes. Il veut les entraîner avec lui en enfer. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il veut les sauver. Donc, ce qui intéresse le diable et le roi de Sodome, c'est d'entraîner avec lui les personnes dans la perdition. Et là, Abraham, qui vient d'avoir cette victoire contre ses rois, comment va-t-il gérer cela ? Vis-à-vis de Melchisédek, Abraham lui donna la dîme de tout. Il fait preuve d'humilité et de soumission vis-à-vis de Melchisédek. En lui donnant la dîme de tout son butin, il montre par là qu'il reconnaît la supériorité et l'autorité de Melchisédek. Abraham montre aussi, en faisant ce geste, il montre sa reconnaissance à Dieu qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et c'est un acte volontaire de sa part qui témoigne de sa générosité. Par contre, vis-à-vis du roi de Sodome, Abraham lui confesse que le Dieu qu'il sert, l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, voilà, c'est lui seul qui veut servir. Il ne sera pas le serviteur de ce roi de Sodome. Et il montre aussi au roi de Sodome qu'il y a une grande différence entre eux. Lui, le roi de Sodome, qui est le fils du mal, lui, Abraham, il est le serviteur de l'Éternel. Mais aussi, il témoigne de sa foi. Il dit ce qu'il croit. Il fait preuve aussi d'une forme d'autorité en ne se soumettant pas à l'ordre du roi, et il refuse son marché, ne voulant pas lui être redevable. Et ça, c'est vraiment une attitude, parce que après une victoire, si on ne gère pas cette victoire, on peut tomber dans le piège. Et là, il aurait pu tomber dans le piège du diable. Et Abraham a eu une attitude à la gloire de Dieu. Il a non seulement fait preuve de courage pour aller combattre ses ennemis, mais en plus, là, il fait preuve d'humilité. Il est reconnaissant, sachant que sa victoire vient de l'Éternel. Et en guise de reconnaissance, il donne la dîme de tout son butin à Melchisédek, qu'il reconnaît comme lui étant supérieur. Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte dans Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il dit au chapitre 13, versets 15 et 16, il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » C'est ce qu'Abraham a fait. Et c'est là tout le sens, frères et sœurs, du culte. Lorsque nous venons pour adorer notre Seigneur, nous voulons lui témoigner de notre reconnaissance, ce qu'il a fait pour nous. Nous lui apportons les sacrifices de nos lèvres, nous voulons lui apporter notre louange, notre adoration, mais aussi nous faisons preuve de libéralité lorsque nous nous donnons. Donc, il faut bien comprendre que Abraham, là, il fait un acte, il montre à Dieu toute sa reconnaissance. Veillons et soyons sobres, comme l'a dit l'apôtre Pierre, car après une victoire dans une bataille, notre ennemi, le diable, peut nous tendre un piège pour nous faire chuter. Résistons-lui avec une foi ferme pour la gloire de Dieu. Et n'oublions pas que nous servons l'Éternel, le Dieu très haut, ne faisons aucun compromis avec l'adversaire. C'est Abraham, il a refusé de faire un compromis avec le roi de Sodome. Donc, quelle attitude avoir après la victoire, si ce n'est que de venir et rendre gloire à Dieu, montrer sa reconnaissance à Dieu, donner à Dieu ce qu'il nous a donné, ce que nous avons gagné, c'est lui qui nous l'a donné, lui apporter, lui montrer notre reconnaissance. C'est là tout le sens du culte, frères et sœurs. Et si vous ne comprenez pas cela, c'est dommage. Si le culte n'est pas important pour vous, c'est dommage. Ça montre que l'humilité, la reconnaissance dont vous devez faire preuve, dont nous devons faire preuve, n'est pas là. Abraham, lui, il est reconnaissant et il témoigne à Melchisédek, qui est un type de Jésus-Christ, cela. Et juste une petite parenthèse, Melchisédek lui donne le pain et le vin. Il donne le pain et le vin. Lorsque nous venons, qu'est-ce que nous prenons? Ce pain et ce vin. Le Seigneur a dit, ceci est mon corps. On se nourrit du Seigneur. C'est aussi cela. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous, ce pain et ce vin. Donc, vous voyez, c'est très important le culte. Hein. Très, très important. Ce n'est pas quelque chose qui est facultatif, c'est pas facultatif, ce n'est pas accessoire. C'est capital. Chers amis, j'aimerais vous poser cette question si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ. À quel roi voulez-vous vous soumettre ? Melchisédek, roi de Sodome. Jésus-Christ, roi de justice, roi de paix. Ou Satan le diable. Donc est-ce à Jésus-Christ? C'est lui qui est la justice, c'est lui qui donne la paix. Dans Romains chapitre 5, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est lui... le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne, qui nous rend juste et qui nous donne aussi sa paix. Est-ce que vous voulez vous soumettre à Jésus-Christ en plaçant votre confiance en lui, en croyant en lui? Ou est-ce que vous voulez vous soumettre au prince de ce monde qui veut vous faire croire que le bonheur se trouve dans les richesses matérielles? Donne-moi les hommes et prends pour toi les richesses. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et tout cela, ce qu'il veut, c'est vous garder avec lui et vous entraîner dans son pays, comme je le disais, ce Sodome, qui est une image de l'enfer qui attend tout homme qui n'a pas placé sa confiance en Jésus-Christ. L'étang de feu, c'est ce qui attend tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, qui font le choix de suivre ceux de Sodome et de Gomorrhe. Voilà. À quel roi voulez-vous vous soumettre? Prenez le temps de réfléchir à cette question. Dans Acte 2, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et Pierre leur dit après, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Que le Seigneur parle à nos cœurs. Voilà. Et si le Seigneur nous donne la victoire, montrons-lui notre reconnaissance, faisons preuve d'humilité et attention, soyons vigilants, parce que le diable rôde et il veut nous faire chuter. J'aimerais que nous terminions avec le chant sur le mont du Calvaire, c'est ce que j'ai mis. Voilà. C'est dans le A3 La Gloire, le numéro 130. Oui, nous remercions notre Seigneur parce que il est venu, il a donné sa vie sur la croix, et grâce à cela, nous avons la victoire. Donc, oui, que le nom du Seigneur soit glorifié.